Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Alex Tremblay-Lamarche, historien et animateur de 3600 secondes d'histoire depuis déjà quand même 10 ans. Bientôt, hein, on va fêter nos 10 ans ce printemps. Aujourd'hui, 9 février, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'une voix que vous connaissez, Alexandre Prince. Bonsoir.
Bonsoir.
Alexandre, vous le connaissez comme étant l'un des animateurs de 3600 secondes d'histoire, mais ce soir, on a le plaisir de le recevoir de l'autre côté du micro comme animateur, pas comme animateur, justement comme invité, pardon, puisque bon, il est l'auteur d'un numéro de Québec Initia, le bulletin de la Société historique de Québec sur l'histoire de la mode à Québec, et à titre de directeur de ce numéro, eh bien, on le reçoit pour une émission sur la mode à Québec de la Nouvelle-France à aujourd'hui. Je me permets quand même de le présenter pour ceux qui le connaissent moins. Alexandre Prince est historien. Il complète actuellement un baccalauréat en histoire à l'Université Laval. Il a également été le rédacteur en chef de la revue Québécoise, la revue de la Société historique de Québec. Sous sa direction, la revue est passée de ce que j'appellerais peut-être un feuillet paroissial qui faisait 24 pages à une vraie revue d'histoire qui n'a rien à envier aux autres revues d'histoire avec une centaines de pages, beaucoup d'images, une direction sérieuse. Il est également animateur de 3600 secondes d'histoire, comme je le disais. Il a collaboré au livre Kitsch Québec, un très beau livre que je vous invite à vous procurer si ce n'est pas déjà fait. Et il s'engage également activement de manière plus générale dans le milieu de l'histoire, que ce soit en rédigeant des quiz pour Le Soleil ou dans de multiples autres plateformes comme guide ou comme recherchiste pour des émissions en histoire. Et donc, on est très choyé de l'avoir avec nous ce soir.
Merci beaucoup. C'est moi qui est choyé, en fait, de pouvoir assumer le rôle d'invité pour cette émission.
Et question avec laquelle on aime toujours commencer pour mieux connaître un petit peu nos invités. D'où vous est venu votre intérêt pour l'histoire de la mode?
C'est extrêmement récent. Souvent, les gens s'attendent à ce que, je leur dise que j'ai un souvenir d'enfant marquant, là, trouver un magazine Vogue sous le lit de ma mère. Mais non, c'est arrivé. En fait, quand j'ai vu l'exposition de Jean-Claude Poitras au Musée de la Civilisation, donc ça doit faire peut-être 2 ans maintenant ou 3 ans.
Quelque chose comme ça.
Donc, pas si longtemps que ça. Puis j'avais eu la chance de faire une visite guidée avec Jean-Claude Poitras en lui-même. Et ça a permis un peu de déconstruire un peu tous les préjugés que j'avais sur l'industrie de la mode, que je voyais souvent comme un milieu, je crois, très, très superficiel, très froid et tout ça. Et à bien des égards, c'est le cas pour beaucoup de gens. Mais j'avais trouvé ça intéressant de voir ce qui se faisait au Québec aussi. M. Poitras, qui était très généreux de son temps, il était très ouvert, parlait beaucoup de son processus de création, parlait beaucoup, oui, de la réalité du milieu, mais aussi d'une démarche artistique que je trouvais absolument intéressante. Puis je trouvais ça chouette aussi de pouvoir voir ce qui se faisait ici, puis qui pouvait être tout aussi bon au final que ce qu'on voit sur les podiums à Paris, à Milan et tout ça. Donc c'est une volonté de mettre en valeur, en fait, là, les talents du Québec et même tous les talents qui sont souvent ignorés là, de ces podiums-là. Là, pour ma maîtrise, je vais regarder plutôt du côté de l'Afrique et tout ça, ce qui se fait au Rwanda. Donc, c'est vraiment tout un monde à explorer là, dans la mode dès qu'on s'éloigne là, des grands pôles traditionnels.
Effectivement, parce que quand on prend le temps de gratter un petit peu puis de fouiller en bibliothèque, on se rend compte qu'il n'existe pas grand-chose sur l'histoire de la mode. Et récemment, je parlais avec l'historien Jean-Marie Lebel, bien connu de ceux qui s'intéressent à l'histoire de la ville de Québec, et on faisait le constat tous les deux que la publication que vous venez de diriger, ce numéro de Québec Initia sur l'histoire de la mode, au final, ça fait peut-être juste une soixantaine de pages, mais c'est ce qui existe de plus complet sur l'histoire de la mode à Québec à l'heure actuelle, à notre connaissance.
Oui, effectivement, il faut dire que bien qu'il y ait eu des travaux vraiment remarquables, là, je parle le Dicomode, entre autres, qui a été publié il y a quelques années, qui a été repris par le musée McCord, qui l'actualise dans une version en ligne. Jean-Claude Poitras lui-même a écrit un livre sur la mode au Québec, mais Généralement, quand on parle de mode au Québec dans ces publications-là, on n'en vient pas à confondre avec Montréal, qui évidemment est le cœur battant de cette industrie-là, encore aujourd'hui avec l'École supérieure de mode, avec le Collège La Salle et tout ça. Une production très, très marquée. Puis le fait d'être branché sur le réseau anglophone facilite le plus facilement la diffusion de mode à l'international. Donc, ça a été vraiment une redécouverte pour ce numéro-là sur Québec. Nos auteurs ont vraiment été extraordinaires. Là, une démarche de recherche qui vraiment allait au-delà des sources seulement écrites, donc des journaux évidemment, mais aussi des entrevues avec des gens, avec des proches souvent, parce qu'on était donc des deux, troisième génération de gens qui étaient dans le milieu de la mode. Donc c'est vraiment une quantité d'informations qu'on est allé chercher au-delà d'une méthode, disons, plus traditionnelle. Donc il y a dû faire appel à des ethnologues, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail qui est allé dans ce numéro-là pour, au final, produire des articles qui, je l'espère, peuvent être assez innovants et faire date, là, du moins dans ce qui s'est écrit sur la mode à Québec.
Effectivement, et sans plus attendre, eh bien, on passe tout de suite en musique avant de vous revenir avec la mode en Nouvelle-France. Et on y va avec une version française du fameux Blue Jeans de Lana Del Rey, mais interprétée cette fois-ci par la chanteuse française Clara Luciani.
Jean bleu, cuir noir. Quand t'es arrivé, j'ai senti mon cœur vibrer. T'étais comme Johnny, junkie. Bronzage de LA, cheveux blonds gominés. Et t'étais un peu ringard, mais t'avais dans le regard quelque chose de malsain. C'était ce dont j'avais besoin. Que ce soit mal, que ce soit fort. T'étais un animal, moi une enfant contre ton corps, bébé. Je t'aimerai jusqu'à la fin des temps. J'attendrai que ce soit le moment. Promets-moi de rester près de moi, même si c'est un amour hors la loi. Je t'aime plus que toutes ces salopes qui attendent leur tour. Est-ce que tu sais ça, mon amour? Oh bébé, je t'aimerai jusqu'à partir pour mieux pouvoir revenir. Je t'ai dit, pars pas, mon cœur. On n'a pas besoin d'argent, on a déjà le bonheur. Mais tu as insisté, tu n'es jamais rentré. J'ai encore sur la bouche le goût de ton dernier baiser. J'ai allumé la télé, on ne parlait que de toi et du type qui t'avait buté. Oh bébé, je t'aimerai jusqu'à la fin des temps. J'attendrai que ce soit le moment. Promets-moi de rester près de moi, même si c'est un amour hors la loi. Je t'aime plus que toutes ces salopes qui attendent leur tour. Est-ce que tu sais ça, mon amour? Oh bébé, je t'aimerai jusqu'à la fin des temps.
Saint-Anne, aie pitié de nous! Le cap tourmente approche et nous risquons de nous échouer!
Chut! J'écoute 3600 secondes d'histoire. Priez plus tard!
Toujours sur les ondes de Schiste 94.3, comme vient de nous le rappeler nul autre que la bonne Sainte-Anne. Et ce soir, nous sommes en compagnie d'Alexandre Prince, historien et rédacteur, ancien rédacteur en chef de la revue Québécoisia, à qui on doit un superbe numéro sur l'histoire de la mode à Québec, dont il vient nous parler ce soir. Et comme on le disait juste avant d'aller en pause musicale, eh bien, c'est un numéro qui nous permet de découvrir la mode des débuts jusqu'à aujourd'hui. Bon, ben, si on commence effectivement par les débuts, notamment avec l'article de... j'ai un petit blanc, oui, Marie-Hélène Fallu, pardon, sur la mode canadienne à l'époque de la Nouvelle-France. À quoi ressemble la mode féminine au début de la colonie?
Ben, il faut dire que c'est assez difficile d'avoir une idée pour la majorité de la population, étant donné que les quelques sources qu'on a vont surtout porter sur des gens plutôt de l'aristocratie, donc des ex-voto, des œuvres d'art, des sources iconographiques. Sinon, c'est seulement des témoignages écrits, là, comme ceux de Père Calme au Canada, d'ailleurs, qui était assez élogieux là, sur l'habillement des Canadiennes. Mais ce qu'il faut dire... ce qu'il faut remarquer, c'est qu'à l'époque, la Nouvelle-France, qui était encore une jeune colonie, c'était vraiment pas développé comme une société distincte vraiment de ce qui se faisait en métropole. Donc les gens cherchaient autant que possible à imiter ce qui se faisait à la cour en France. Bon, au 18e siècle, ça va être les modes de Versailles et tout ça qu'on va chercher à imiter. Naturellement, avec un certain retard dans le temps, la durée des voyages à l'époque là, était assez conséquente, donc on pouvait pas, il n'y avait pas d'Instagram ou de moyen de savoir ce qui se passait à Versailles. Puis souvent, c'était un peu, ça pouvait être une source de moquerie, quelque peu, de voir les gens des colonies qui souvent ont porté une mode de 3-4 mois en retard. Il faut dire que ça allait extrêmement rapidement.
Les modes changeaient aussi vite que ça?
Oui, vraiment, c'est un peu... un système, ça faisait partie du système de la cour, en fait, là, de concourir pour les attentions du roi, les privilèges et tout ça. Il y avait toute cette dynamique-là qui se rendait jusque dans les colonies où ce système-là est un peu reproduit à petite échelle avec donc les gens qui étaient plus proches du pouvoir, les administrateurs et tout ça, qui avaient les moyens là, de suivre avec plus d'assiduité les modes. Puis je crois que c'est, encore une fois, dans les témoignages de Père Calme, il raconte là, les dames qui s'empressaient d'aller voir les bateaux arriver pour voir les marchands de mode débarquer ou les gens qui arrivaient de la métropole, voir comment elles étaient habillées et tout ça. Là. Donc c'était d'une grande importance là, pour les femmes de la colonie, là, souvent au déplaisir du clergé d'ailleurs.
Ouais, il y a également une production en fait de couture dans la colonie qui est notamment occupée par les corporations de métiers. Quel rôle les corporations de métiers jouent-elles dans l'industrie de la mode? Est-ce que bon, on fait seulement importer ou est-ce qu'on a également une production locale qui est quand même assez importante?
Il y avait une production, je dirais pas qu'elle était importante, mais il y avait des chapeliers, des perruquiers, des modistes dans la colonie, mais je crois que les corporations de métiers, au final, pouvaient jouer davantage un rôle d'obstacle qu'un avantage pour ça. En fait, le rôle premier des corporations de métiers était de protéger, si on veut, les milliers d'affaires. Donc, de mettre des règles très strictes sur qui pouvait exercer quoi. Et par exemple, il ne fallait pas qu'un une marchande de mode... fasse des retouches sur une robe, par exemple, parce que là, ce serait empiéter sur le travail des couturières et tout ça. Donc, c'était très, très strict. Et naturellement, en Nouvelle-France, comme il y avait moins de travailleurs spécialisés, il y avait des assouplissements. Okay. C'était moins strict ce qui pouvait se faire en France à la même époque où il y avait là, un protectionnisme assez zélé des différents corps de métier. Mais il reste que c'était fermement défini. Les différents types de professionnels auxquels on devait se référer, par exemple, pour se faire une perruque et tout ça, mais il y en a dans les registres et il y avait une production donc à Québec, ce qui permettait d'éviter là, de faire toujours importer des vêtements, ce qui au final devait revenir très cher.
Effectivement, et vous avez mentionné les perruques et vous avez mentionné également les chapeliers. À quoi ressemblaient les coiffures à l'époque? Est-ce que on pense aux immenses perruques là, de la cour à Versailles à la fin du 18e siècle, mais à la fin du 17e puis au début du 18e, à quoi ressemblent les coiffures ici?
Absolument. Ben, pour les hommes, effectivement, les perruques étaient souvent de mise. En fait, c'était un symbole de pouvoir, donc un symbole de richesse. Donc, la perruque, très populaire chez les hommes. Mais il y arrivait aussi pour les gens qui avaient, disons, une chevelure généreuse naturellement, pouvaient porter là, des longs cheveux à peu près aux épaules, généralement des cheveux bouclés, dans l'idée un peu là, de reproduire là, le style du roi soleil, des perruques et tout ça. Et pour les femmes, c'était des coiffures assez extravagantes là, qui reproduisaient ce qui se faisait en France. Puis il y a vraiment une transposition directe de ce qui se fait à Versailles. Le meilleur exemple de ça, c'est puis dans le livre, Marie-Hélène Fallu a présenté un ex-voto où on voit des dames qui ont ce qu'on appelle la coiffure à la Fontange. Et l'anecdote derrière cette coiffure-là, c'est qu'apparemment, durant une partie de chasse, donc la maîtresse du roi, Mademoiselle de Fontange, aurait été décoiffée et là, elle aurait utilisé des rubans dans ses cheveux pour faire tenir le tout et ça aurait été un succès instantané. Les gens auraient commencé à l'imiter dès le lendemain. Et donc, c'est vraiment de voir comment un événement qui se passe lors d'un événement mondain à Versailles a des retentissements de l'autre côté de l'océan. Ça montre à quel point les sociétés des deux côtés de l'Atlantique étaient fermement connectées, au niveau de la mode du moins.
C'est quand même fascinant de voir les répercussions qu'un coup de vent lors d'une partie de chasse à Versailles peut avoir dans la mode féminine dans la vallée du Saint-Laurent. Et on a parlé un petit peu des femmes, puis on a parlé un petit peu des perruques masculines, mais l'habit masculin ressemble à quoi à cette époque-là?
Souvent, ça peut faire sourire les contemporains d'aujourd'hui, puisqu'on est donc dans une période antérieure à ce que le sociologue Veblen va appeler la grande renonciation masculine, là, où donc tout le monde porte là, des costumes trois pièces noires. Donc, on était vraiment à une époque où les hommes de l'aristocratie s'habillaient de manière aussi extravagante que les femmes. Donc, beaucoup de rubans, beaucoup de maquillage, de bijoux et tout ça, des perruques très extravagantes, comme on disait. La fameuse culotte, là, qu'on appelle, qui est le vêtement typique des aristocrates. Mm-hmm. D'ailleurs, au moment de la Révolution française, il va y avoir une rupture entre ceux qu'on appelle les sans-culottes, donc les bourgeois, et les gens qui portent la culotte, donc la noblesse, avec les longs bas blancs par-dessus. Donc, typique de ce qu'on peut voir dans les films qui représentent le 18e siècle, Barry Lyndon, par exemple, de Stanley Kubrick, où on voit beaucoup ce style typique du 18e siècle qui souvent va peut-être être parodié beaucoup justement dans le cinéma comme étant très efféminé, mais qui au final représente une époque où l'extravagance, la coquetterie masculine, au contraire, était présentée comme quelque chose qui était typique, qui faisait partie du mode de vie là, de la classe aristocratique.
C'est fort intéressant et si on se projette un petit peu dans le temps, au 19e siècle, bon, la mode continue tranquillement à évoluer et va arriver une invention qui va révolutionner le secteur de la mode et l'histoire de l'art également, la photographie. Véronique Bourboen, grande spécialiste de l'histoire de la mode, dans le texte qu'elle signe dans Québecentia, nous parle un petit peu de l'impact de l'arrivée de la photographie dans l'histoire de la mode, mais j'ai envie de vous lancer effectivement cette question-là. Quel rôle la photographie vient-elle jouer effectivement dans l'industrie de la mode au 19e siècle à Québec, mais de manière aussi plus large?
L'article de Mme Bourboen est extrêmement intéressant et on a beaucoup de chance de l'avoir eu sur la revue, mais c'est dans la mesure où elle analyse des portraits que les gens faisaient faire au studio L'Hivernois, par exemple, pour les plus fortunés ou dans des studios plus modestes. Et généralement, quand on parle de l'impact de la photographie, on est porté à parler de la publicité. Mm-hmm. On est porté à parler de la manière dont la mode se diffuse. Mais le portrait, en soi, a aussi eu un impact parce que ça donnait aux gens un prétexte ou une occasion pour sortir leurs plus beaux habits, pour être immortalisés dans une photo. Donc, ça nous permet d'observer non seulement comment les gens étaient vêtus de manière réaliste par opposition à une caricature ou à un dessin ou même une peinture où souvent les gens sont embellis, sont idéalisés, mais aussi de voir qu'est-ce que les gens considéraient être à leur meilleur jour. Et ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'on voit la différence, donc selon les gens de trois classes sociales différentes, qu'est-ce qui était accessible, qu'est-ce qu'on pouvait atteindre et dans quelle mesure on pouvait se conformer à un idéal de mode selon les moyens du bas.
Et c'est particulièrement intéressant. À quoi ressemble la mode à l'époque?
Comme je disais tout à l'heure, donc le phénomène de la grande renonciation masculine et même ce qui se passe en mode féminine est symptomatique de la division des genres qui s'impose au 19e siècle. Donc, il y a vraiment toute une philosophie qui s'élabore où on veut séparer les sphères, où on présente l'homme comme étant actif dans la vie publique et tout ça, la femme plutôt responsable de la vie privée. Donc, tout ça est très binaire. Et comme la bourgeoisie est une classe qui s'est constituée par opposition à l'aristocratie, il y a une idée d'aller à l'encontre de l'excès vestimentaire de la période précédente. Donc, le vêtement bourgeois, contrairement au vêtement des aristocrates, va être très austère, va montrer des valeurs plutôt de conformité, de travail. Généralement, on ne va pas apprécier les couleurs du tout, donc ça va être soit du noir, soit du bleu marine. Style très conservateur où si on cherche à se distinguer, c'est plus, ça va plutôt être de manière subtile et tout ça, mais surtout, ça va être dans l'habillement de son épouse, en fait. Et là, c'est ce que certains vont appeler les femmes vitrines. Mais donc, les femmes deviennent, pour les gens de la classe bourgeoise, un moyen d'affirmer leur richesse en, avec des toilettes. Exact, des toilettes qui sont super extravagantes, au point même de restreindre les mouvements. Donc, les crinolines, les jupons qui pèsent une tonne, les corsets et tout ça. Donc, vraiment, une espèce de la femme devient véritablement un présentoir de la richesse de son mari, des bijoux extravagants et tout ça. Donc, il y a ce volet-là, souvent peut-être un petit peu plus sombre. Des fois, on voit la mode des années du 19e siècle comme quelque chose à se dormir merveilleux. Pourquoi les gens s'habillent plus comme ça aujourd'hui? Mais
c'est pas confortable.
Effectivement. Donc, c'est vraiment... Ça répondait à une compétition malsaine ou une idée de les femmes, la toilette des femmes est perçue au même titre que les tableaux qu'on affiche dans son salon et tout ça, donc fait partie de la vie privée de l'époque victorienne, fait partie de cet univers un peu des possessions, univers de l'ostentation. Donc, c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on est au 19e siècle et qui explique la différence entre l'austérité de la mode masculine et l'extravagance de la mode féminine.
Et ce qui est intéressant avec les photos, c'est que bien souvent, on est capable de les dater et on est capable de dater également les vêtements qui se trouvent dessus. Est-ce qu'on suit la mode de façon plus rapprochée au 19e siècle qu'on le faisait à l'époque de la Nouvelle-France? Ou est-ce qu'on est capable de jauger ça avec les photos?
Véronique Bourboën absolument serait capable de vous le dire et d'identifier n'importe quelle photo.
Ah, est impressionnante.
En la regardant, effectivement. Vraiment, il y a des subtilités qui permettent de dater, je crois, environ aux 5 ans. Mais c'est que ce soit la longueur des manches, la longueur des ourlets, des jupes et tout ça. Il y a des indices qui permettent à une personne calée sur cette période-là de savoir vraiment et de pouvoir dater avec exactitude l'événement. Mais ce que les photos nous révèlent, c'est que oui, les modes sont suivies, mais surtout la manière dont elles sont suivies, et généralement, c'est en altérant les vêtements. Donc, on n'est pas du tout dans une dynamique comme aujourd'hui là, de jeter, d'acheter de nouveaux vêtements, mais vraiment, la même robe, au long de sa vie, peut être modifiée, ajustée.
On va raccourcir les manches ou on va rajouter une dentelle.
Exact, des dizaines de fois, et ensuite, on la lègue à sa fille et ça recommence. Donc, pour les vêtements qui subsistent, d'ailleurs, dans les collections muséales, on est généralement capable de voir, lorsqu'on les retourne et qu'on observe à l'intérieur, on voit les ajustements qui ont été faits, on voit où, si ça a été raccourci, des dentelles qui sont ajoutées et tout ça. Et c'est particulièrement vrai, encore une fois, dans les dynamiques de classe sociale où, pour les gens d'origine plus modeste, c'est absolument nécessaire de devoir procéder à ces altérations-là, puisqu'il est hors de question là, d'acheter une autre robe au complet. Ça coûtait beaucoup trop cher. Et une autre tactique consiste plutôt à miser sur la coupe de cheveux, par exemple. Donc, c'est beaucoup moins complexe d'imiter une coupe de cheveux que des vêtements. Donc, il y a des tactiques comme ça que les gens développaient pour toujours pouvoir correspondre au modèle de la mode. Là, c'est une autre différence, je dirais peut-être, avec aujourd'hui. C'est que la mode au 19e siècle ne répondait pas du tout à des idéaux d'individualité, d'expression personnelle. On est vraiment dans une idée de se conformer pour ne pas se sentir exclu, puis il peut même y avoir des conséquences professionnelles, des conséquences et tout ça. Par exemple, une femme qui un matin décide de porter un pantalon pour aller travailler à l'usine, il risque de pas y avoir des conséquences très joyeuses, parce qu'encore une fois, c'était considéré odieux à cette époque-là de brouiller cette distinction-là qui était établie entre les genres.
Et si on va effectivement du côté des codes sociaux, Jocelyne Mathieu nous révèle dans le numéro notamment qu'il y a plusieurs façons d'en apprendre plus sur les mentalités face à la mode dans un article sur l'élégance, notamment les journaux intimes. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur la mode, les journaux intimes?
Les journaux intimes, ben, d'une part, ils révèlent des informations de première main sur, par exemple, où est-ce qu'on se procurait les vêtements à l'époque, quelles étaient les tendances, quels étaient les tissus qui étaient en vogue, donc des informations, on peut dire, très techniques. Mais disons, le volet qui peut être plus intéressant, c'est plutôt au niveau là, de l'aspect social. Donc, lorsqu'il y a des descriptions de balles et tout ça, dire « Ah, telle mademoiselle était donc bien mal habillée ce soir-là. » Donc, il y a vraiment, justement, ce jeu-là de convenance, ce jeu-là de l'élégance et de... un peu de surveillance entre femmes qu'on voit à l'époque, puis qui évoque beaucoup un peu ce monde. On pense au livre de Jane Austen, on pense à cette espèce de surveillance de société. Donc, il y a ça qui est intéressant dans les journaux intimes qui, au final, sont rarement écrits pour être lus. Donc, c'est un peu de tomber dans les confidences d'être d'accord qu'au final, effectivement, c'est telle mademoiselle, ça n'avait pas de bon sens de mettre un châle violet.
Scandale! Et si on regarde du côté des joueurs de l'industrie de la mode au 19e siècle, Jocelyne Mathieu en parle un petit peu.
Eh bien, il y avait des commerces familiaux comme Benjamin Importers, qui était assez important à Québec dans les années 1850. Mais évidemment, on ne peut pas passer sous silence ceux qui sont encore actifs aujourd'hui. Donc, la maison Simons, qui a le monopole de l'habillement à Québec aujourd'hui, mais qui a en fait été inventé... le magasin a été lancé, en 1840. Donc, c'est vraiment une compagnie très ancienne. Et plus ancienne encore, il y a Old Renfrew.
Oui, c'est vrai, c'est né à Québec.
Exact. Donc, le magasin de Québec n'est plus aujourd'hui, mais c'est né à Québec. Et Old Renfrew a une carrière monumentale, puisque c'est en 1886, je crois, que ce magasin-là a été nommé le fournisseur officiel en fourrure de la reine Victoria, de la couronne d'Angleterre. Donc, ça a propulsé le magasin au sommet. Puis, par la suite, il va y avoir des partenariats, entre autres, avec des hautes maisons de couture, avec la maison Dior, par exemple. Mais là, on est dans une autre époque, plutôt le Old Renfrew de Montréal, de Toronto et tout ça. Donc, on sort un petit peu de Québec, mais qui est pourtant le point de départ de ce magasin incontournable de la mode en Amérique du Nord.
C'est fort intéressant et ça nous amène en musique avec un air de princesse, j'aurais envie de dire, un air issu d'un ballet de Prokofiev, la valse de Cendrillon. Et donc, on vous laisse en musique et on vous revient tout de suite après les pauses publicitaires et musicales. Toujours sur les ondes de Chiz 94.3, vous êtes à l'écoute de 3600 secondes d'histoire. Et ce soir, on survole un peu plus de 400 ans d'histoire de la mode, puisqu'on parle de l'histoire de la mode dans la ville de Québec, des origines à nos jours. On est en compagnie de l'ancien rédacteur en chef de la revue Québécoisia, Alexandre Prince, qui a dirigé un numéro sur le sujet. Et donc, rebonsoir Alexandre.
Rebonsoir.
Juste avant la pause, on parlait d'élégance, mais si maintenant on va du côté d'un des éléments en fait clés de l'élégance pendant très longtemps, j'aurais envie de dire, même si c'est un petit peu moins le cas maintenant, le chapeau. Quelles sont les grandes catégories de chapeaux qui existent au 19e et au 20e siècle et pourquoi est-ce qu'ils sont si importants que ça dans la mode à l'époque?
Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on représente le passé. Je blâme encore une fois le cinéma hollywoodien pour ça, mais le chapeau, c'était omniprésent là, durant la majorité de l'époque moderne et contemporaine. Particulièrement au 20e siècle, tout le monde portait des chapeaux. Et surtout au 19e siècle, où encore on est dans cette dynamique-là de monde très hiérarchisé, de classe et tout ça, les types de chapeaux vont servir de marqueur d'appartenance. Donc, déjà, il y avait les chapeaux de paille et les chapeaux de feutre qui étaient... Donc, les chapeaux de paille, comme on peut penser aux canotiers et tout ça, d'abord associé à un milieu plus modeste, mais éventuellement va intégrer les milieux bourgeois en étant associé à l'aviron, un peu, on peut penser aux toiles de Manet,
les chiatures.
Ce monde-là un peu l'été, et les chapeaux de feutre, eux, associés davantage au monde des affaires, donc dont l'emblématique haute forme, là, qui est pratiquement un symbole de la révolution industrielle, un symbole de vraiment la figure du capitaliste là, qui va être récurrente dans les discours.
Monsieur Monopoly porte haute forme. Là.
Effectivement, le bonhomme Planters aussi, donc tous ces personnages-là un peu... donc, il y a quelque chose du haute forme, même dans la conception du chapeau en soi qui évoque les valeurs bourgeoises, donc les valeurs d'ambition, des valeurs de prendre de l'expansion, de prendre de la place. La forme du haut de forme, en fait, cherche à élever la taille, donc paraître plus grand. Donc, il y a quelque chose de... D'ailleurs, il y avait des hauts de forme très de hauteur assez hallucinante, des fois, au 19e siècle. Donc, et Québec ne faisait pas exception à ça. Et d'ailleurs, il y avait énormément de chapelières à Québec. Elles étaient d'ailleurs probablement le corps de métier le plus représenté de l'industrie de la mode à Québec. Il y en avait beaucoup et elles étaient très réputées pour leur travail.
Et qui sont les chapeliers incontournables de Québec? Pierre B. Berthelot nous en parle un petit peu dans son article.
Eh bien... pour ce qui est de la mode masculine, donc dans l'article de M. Berthelot, on est beaucoup dans les grands magasins. On est beaucoup dans le haute renfrew, encore une fois, le prestige associé à la couronne. D'ailleurs, le haute forme va surtout être popularisé par Albert, là, le mari de la reine Victoria. Et le titre de fourreur de la couronne va aider beaucoup à la popularisation de ce magasin-là. Mais il y a aussi le grand magasin Paquette de Zéphirin Paquette qui va ouvrir sur la rue Saint-Joseph en 1850. Donc, un autre incontournable de la mode à cette époque-là. Et pour les chapeaux féminins, on est généralement dans un travail plus personnalisé, plus personnel. Donc, ça va plutôt être des artisanes, des chapelières avec lesquelles les gens vont faire affaire, comme Laurette Dulac, par exemple, sur qui un article exceptionnel a été écrit par...
Valérie Bouchard,
exact.
Ouais, ben, puisqu'on en parle justement de Laurette Dulac, parlons-en plus amplement. Qui est-elle? De quel milieu vient-elle? Et comment est-ce qu'elle en vient intégrer le milieu de la mode?
Oui, j'ai un petit instant.
j'ai sauté quelques questions. On devait parler de H.T. Vierge, mais j'ai décidé de sauter directement à Laurette Dulac. D'intervieweur.
Je pensais déjà à Hervé T. Vierge. Donc oui, Laurette Dulac, elle est originaire de Sainte-Marie-de-Beauce. Donc, je me souvenais qu'elle venait de Beauce, mais donc c'est bien de Sainte-Marie. C'est la quatrième fille de sa famille et elle décide d'aller s'installer. En fait, sa famille s'installe dans le quartier Saint-Roch dans les années 1910. Elle va commencer très jeune à travailler dans le milieu de la mode, vers 15 ou 16 ans, en tant qu'apprentie modiste chez Alice Nicoulot, qui était une modiste qui provenait de France. Et ensuite, elle va travailler un peu dans le circuit là, des grands magasins. Donc, elle va travailler chez Polac. Elle va travailler aussi au Syndicat de Québec, au Rayon des Chapeaux. Donc, tout ce monde-là était très connecté. Surtout qu'il faut dire que tous les grands magasins auxquels on peut penser, le Paquet, la Liberté, le Syndicat de Québec, le magasin Polac, étaient tous sur la même rue, là, donc qui était vraiment l'artère principale de la mode à Québec.
Et à quoi ressemble le métier de modiste? Parce que, bon, on va dire d'elle que c'est une modiste. C'est quelque chose qui, bon, n'est plus vraiment employé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une modiste à l'époque?
Une modiste, en fait, c'est une personne qui s'occupe des chapeaux. Et qui fait...
OK, non de la mode de manière plus générale.
Non, exact. Le terme peut porter à confusion. Mais il est vraiment question des chapeaux. Et pas seulement d'en fabriquer, mais surtout à l'époque, ça pouvait aussi impliquer de remodeler des chapeaux, d'en confectionner sur mesure, d'en fabriquer dans une optique de prêt-à-porter ou de faire des ajustements et tout ça. Donc vraiment une spécialiste des chapeaux. Et c'est un métier qui existe encore aujourd'hui, dont on parle assez peu. Il y a Stephen Jones, entre autres, qui est un modiste britannique qui s'est illustré beaucoup pour son travail avec Jean-Paul Gaultier et tout ça. Mais c'est assez rare là, que ces gens-là soient sous les projecteurs, là, surtout après les années 1850 et tout ça, où c'est vraiment la figure du designer ou du couturier qui va devenir emblématique. Les autres professionnels de la mode, notamment les modistes, se sont un petit peu effacés là, du monstre médiatique là, associé à l'industrie de la mode.
Et si on parle effectivement justement de l'industrie de la mode, ce qui est intéressant avec Laurette Dulac, c'est qu'elle va développer toute une série de stratégies pour attirer de la clientèle et que comme Valérie Bouchard a pu accéder à sa nièce, si je ne m'abuse, oui, eh bien, on est capable de connaître un petit peu ces stratégies qui sont mises en place. Quelles sont-elles?
Elle était très brillante. C'est vraiment quelqu'un qui avait un sens du marketing, un sens des affaires et... elle était médiatisée, par exemple, dans Le Soleil, elle ne mettait pas seulement en valeur ses produits, mais elle retraçait, par exemple, son parcours lorsqu'elle disait « Ah, donc Laurette Dulac s'est rendue à Paris, sélectionner les nouveaux modèles pour son magasin, tout ça, s'est rendue à New York », donc retraçait son itinéraire de voyage, ce qui ajoutait un certain cachet et un certain prestige à sa boutique, étant donné que, bon, ça, c'est quelqu'un qui prend la peine d'aller dans les capitales de la mode pour voir ce qui se faisait. Et ensuite, là, elle parlait d'une promotion, donc le fait de voir un peu à la fois cette idée de quelque chose de prestigieux, quelque chose de qualité, mais à un prix qui peut être assez abordable. Puis d'ailleurs, c'est assez rigolo, il y a une anecdote qui est contée par la nièce de Laurette Dulac où elle raconte que dans le magasin, à un moment donné, elle n'était pas capable de vendre trois chemises. Elle n'était pas capable de vendre des chemises à 25 sous. Et là, ils ont plutôt fait une affiche qui disait 3 chemises pour 1$. Donc, plus cher au final. Mais que là, toutes les chemises se sont vendues. Donc.
Ouais, hein, y a le génie du marketing puis le désir pour les rabais, c'est, ça date pas d'hier.
Voilà.
Et si on retourne maintenant du côté d'Hervé Vierge, c'est un autre acteur important du milieu de la mode à Québec dans la première moitié du 20e siècle. Et Jean-François Caron, historien retraité de Parc Canada, le met bien de l'avant dans ce numéro de Québecensia. À quoi, qui est-il, d'où vient-il ce Hervé Vierge?
Alors, d'où ma confusion de tout à l'heure, je pensais qu'on allait là, mais Hervé Vierge, lui, justement, est le 6e enfant d'une famille de 12 de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans. Donc, une très grande famille là, qui va s'illustrer dans ce milieu-là. Donc, un peu, on pourrait dire, une Céline Dion là, du vainement en devenir. Et donc, après que sa famille aménage à Québec, il va commencer à travailler dans le milieu de la vente, dans le milieu des vêtements. Et c'est seulement en 1922 qu'il fonde son magasin, donc le magasin H.T. Vierge Le Costumier, et qui devient en fait le premier magasin spécialisé en mode féminine de Québec. Et il faut dire que ça contraste parce que tous les magasins qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est des grands magasins où on retrouve, oui, des vêtements, mais on retrouve aussi des électroménagers, on retrouve des cosmétiques, jouets. Des jouets, exact. Il y avait même la première salle de cinéma à Québec était au dernier étage du magasin Paquette, ce qu'on appelait le Paquettorium, en 1909, je crois. Donc, vraiment une espèce de palais des palais de la consommation où tout est présenté, tout est mis en valeur. H.T. Vierge, c'était plutôt quelque chose qui se présentait comme des spécialistes seulement la mode pour femmes, mais avec un degré, par conséquent, de raffinement, avec un degré de précision. C'est quelqu'un qui pouvait parler pendant des heures de tissus et tout ça, dont les noms probablement ne disaient rien aux clients, en tout cas ne me disaient rien à moi quand je les lisais, mais qui avait vraiment une notion de se présenter un peu comme l'endroit pour les gens qui savent ou pour les gens de goût. Ouais. Et ça va beaucoup fonctionner chez la clientèle de Québec qui recherchait cette distinction-là.
Et son magasin, justement, bon, va assez bien prospérer jusqu'au jour de son décès. Quel sort connaît le magasin à son décès? Qu'est-ce qui va expliquer sa fermeture par la suite?
Faut dire que les morts jeunes, dans des circonstances assez troubles, là, donc dans son camp de chasse à seulement 57 ans, et son testament avait un souhait de liquider tout ce qu'il y avait dans le magasin, en fait. C'était précisé ça. Donc, sa famille a exécuté le testament, mais même une fois toute la marchandise vendue, son beau-fils souhaitait reprendre le magasin. Donc, c'est Paul-Henri Plamondon, le mari de sa fille, qui reprend le magasin, renfloue les stocks et poursuit comme si rien n'était. Et le magasin va vraiment rester ouvert jusque dans les années 1970,
C'est tard.
C'est tard, mais ça coïncide aussi à la fermeture de beaucoup d'autres grands magasins qui étaient sur la rue Saint-Joseph parce que c'est l'arrivée des centres commerciaux dans les années 70 et ça coïncide aussi avec l'essor des banlieues, le modèle un peu là, de la maison unifamiliale avec la voiture et tout ça se propage beaucoup et ça modifie les habitudes de consommation. Donc, les gens souhaitaient tellement utiliser leur automobile qu'au final, ils préféraient aller dans un centre commercial que d'aller dans le grand magasin qui était près de chez eux. Et ça a un petit peu asphyxié
Les commerces de la rue Saint-Joseph.
Exact. La rue Saint-Joseph, qui même pendant un temps va se transformer en le Maille Saint-Roch, là, qui est d'ailleurs une abomination qui, heureusement, n'existe plus aujourd'hui. Mais donc, ils avaient couvert la rue vraiment dans une volonté d'en faire
un centre commercial.
Exact.
Mais ce qu'ils n'avaient pas compris au final, c'est que ce que les gens voulaient, c'était pas tant un centre commercial, c'était du stationnement.
Voilà.
Et donc, oui, effectivement, bon, on leur proposait ça sur Saint-Joseph, mais non, on leur permettait pas de faire un tour de machine.
Exact. Donc, c'est la voiture, au final, qui a eu raison du magasin de M. Thivierge.
Et si on retourne un petit peu dans le temps et on va dans un sujet parallèle, Marie-Josée Lettre parle dans le numéro de Québecensia de l'enseignement de la mode à Québec. On a tout à l'heure mentionné les grandes écoles qui sont à Montréal, entre autres, mais à Québec, on a aussi une école de mode, le campus Notre-Dame-de-Foy, mais c'est quand même récent, cette école-là. Et donc, si on remonte dans les années 1960, à quoi est-ce que ressemble l'enseignement de la mode à l'époque?
Oui, moi je tiens à dire d'une part que cet article-là était un article coup de cœur pour moi puisqu'il n'y a rien que je savais préalablement sur ce sujet-là avant de le lire et c'est vraiment fascinant de retracer justement les débuts de l'enseignement de la mode à Québec. Il faut dire qu'avant les années 1960, il n'y avait pas de cursus formalisé. Donc c'était vraiment dans les cours d'économie familiale à l'école ou dans les ménages, beaucoup dans une tradition orale de femme en femme, on se donnait des trucs. Et il y avait des cercles un petit peu plus institutionnalisés, par exemple les cercles de couture Singer dans les années 1950. Mais c'est vraiment une femme, en fait, Irène Bilodeau, qui va monter la première école à Québec. Donc, elle-même a gradué de l'École des métiers commerciaux de Montréal, qui était la grande école de formation en métiers de mode à l'époque, en 1960. Et c'est seulement 3 ans plus tard qu'elle ouvre l'École de couture Châtelaine, à Sainte-Foy, en fait, dans un des bâtiments de l'actuel cégep Sainte-Foy aujourd'hui. Et c'est la première formation professionnelle en design de mode dans la région de Québec.
Et cette école-là, est-ce qu'elle existe toujours?
Malheureusement pas. Elle a fermé en 2002 après un parcours d'assez longue date. En fait, il faut dire que la première cohorte avait seulement 5 étudiantes. Puis elle va rapidement là, connaître une croissance effrénée. Elle va devoir relocaliser une première fois sur le chemin Sainte-Foy à la fin des années 60. Puis en 1994, va déménager dans Limoilou. Elle va éventuellement être acquise par le Collège La Salle de Montréal qui va en faire une succursale en 1996-1997. Mais malheureusement, donc à partir de 2002, l'école a fermé ses portes, mais il y a quand même des gens notables là, du milieu de la mode à Québec qui ont gradué à cette école-là. C'est notamment le cas de Francine Poulain, qui fait l'événement de ski Avalanche, et Annie Bellavance là, de Souris Mini, donc la griffe d'événements pour enfants.
Quand même. Et parallèlement, effectivement, au travail fait par Irène Bilodeau dans la création de l'école de mode de Châtelaine, il y a également un homme, John A. Kelly, qui s'engage dans l'enseignement de la mode à Québec.
Oui, John Albert Kelly, qui lui aussi donc vient de l'École des métiers commerciaux de Montréal, mais qui, lui, travaillait avant tout comme couturier plutôt que comme professeur, mais donnait tout de même des cours dans sa maison. En fait, il avait aménagé sa maison en 3 volets, donc un salon pour faire les défilés, les essayages et tout ça, un volet atelier de confection, et un volet école pour transmettre des connaissances sur la mode, mais il y avait aussi une école de maintien là, pour ce qui est bonne manière et compagnie. Donc, c'était très populaire dans les années 60. Et John Albert Kelly, ce qu'il faut dire, c'est que c'est quelqu'un qui a une carrière de couturier là, qui est très exemplaire, là, si on pense au sens conventionnel. Donc, vraiment, il va recevoir des bourses pour aller étudier en Europe. Il va remporter des concours en Angleterre, en France. Donc, on va se ramasser avec tout un prestige, tout un cachet qui va beaucoup plaire à la clientèle bourgeoise de Québec. Donc, ça va être un couturier qui va être très en demande, autant comme pour son travail que comme professeur. Malheureusement, il va décéder dans des circonstances assez sombres. En fait, il est assassiné dans sa maison en 1971. Et les sources, en fait, pour le moment, ne permettent pas d'en savoir plus là, sur le motif ou sur les raisons là, de cet assassinat. Mais donc, ça a été une fin assez, assez tragique pour l'école donc, de John Albert Kelly.
Et aujourd'hui, quand on pense à l'enseignement de la mode, on passe à Québec. On pense bien entendu à celui qui est donné au campus Notre-Dame-de-Foy. À quand est-ce que ça remonte?
Donc, c'est en 1975 que le premier programme de mode du campus Notre-Dame-de-Foy est lancé. Donc, c'est seulement 10 ans après la création de l'institution. Et c'est effectivement le programme, donc encore en vigueur aujourd'hui à Québec, qui est disponible depuis le plus longtemps. Et pour connaître là, beaucoup de gens qui le suivent, à ce qu'on dit, c'est vraiment un programme qui est remarquable et qui est très en phase avec les approches très contemporaines, très tournées vers l'avenir. Donc, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses de ce programme.
Fort intéressant. Et si on se dirige maintenant du côté d'une icône de la mode à Québec, les gens un peu plus âgés la connaissent, Madame Bellé, Henriette Bellé, Pascal Charpentier, Amélie Fafard, Enya Kerouas, Sarah Thibaudeau-Cormier et Bianca Roy, membre du groupe de recherche Henriette Bellé, signent dans Québécoisien un très intéressant article sur elle et ont également offert une série de balados pour connaître le personnage. C'est un personnage qui se passe de présentation pour les gens qui ont 60, 70, 80, qui se souviennent de l'avoir débarqué au Palais Montcalm avec ses costumes extravagants. Mais pour nos auditeurs plus jeunes, est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'Henriette Bellé?
Oui, absolument. Puis je tiens simplement à encourager les gens à aller voir les balados qui sont vraiment chouettes et qui sont interactifs aussi. C'est des promenades c'est interactives. Chouette. Donc, prendre un soir où il ne fait pas trop froid puis aller voir les différents endroits représentatifs de la vie d'Henriette Bellé. Mais donc, Madame Bellé, c'était vraiment une icône du Faubourg Saint-Jean-Baptiste et du milieu artistique là, de Québec à cette époque-là, qui était vraiment célébrée pour ses costumes extravagants qu'elle portait lors des premières au théâtre, au cinéma et tout ça. Donc, elle faisait lui-même ses costumes. Elle était autodidacte et c'était vraiment là, pas seulement des costumes, on pourrait dire, destinés à montrer sa fortune, comme l'auraient fait, par exemple, des gens du 19e siècle. C'est vraiment des costumes destinés à émerveiller, donc des gens qui souvent la voyaient arriver avec des plumes de paon sur la tête et des traînes de plusieurs mètres de long. Donc, c'est très impressionnant. Et c'est des costumes qui souvent étaient faits pour être portés une seule fois. Donc, il y avait beaucoup d'inventivité, beaucoup de bricolage, de réutilisation. C'était une dame qui était très, très créative. Puis c'est quelque chose qu'elle faisait pour son plaisir. En fait, elle était cartomancienne dans la vie.
Oh, ouais.
Donc, un personnage très haute en couleur, qui pouvait être polarisante aussi. Là. Il y a des gens qui la baptisaient là, la reine du kitsch et qui trouvaient ses costumes plutôt de mauvais goût. Mais elle-même, donc, était très fière de ses costumes et c'était elle-même qualifiée là, de monument historique.
Rien de moins.
Et j'estime qu'on peut lui donner raison parce qu'effectivement... On en parle encore. Il suffit de parler à des gens qui l'ont connue ou même à des gens qui en ont entendu parler parce qu'ils étaient enfants à l'époque. Et vraiment, dans le Faubourg Saint-Jean-Baptiste et même au-delà, Madame Bellé était une icône et elle est encore aujourd'hui, selon moi. Il suffit de voir les photos qu'on a, les portraits d'elle et tout ça, et ça fait sourire encore aujourd'hui. Donc.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que, bon, sa collection de vêtements, elle a été exposée dans un musée pendant un certain temps.
Oui, ben, c'était au Musée du Québec pour une exposition qui s'appelait « Le surréalisme dans le costume » en 1971, donc où elle avait elle-même participé et certaines de ses costumes avaient été exposés. Puis, après son décès, il y a eu un musée qui lui était entièrement consacré, donc le musée Empire Henriette Bellé, qui ouvre en 1984 et qui malheureusement ne va rester ouvert que 2 ans. Et c'est la fermeture ensuite de ce musée-là qui plonge là, progressivement sa collection dans l'oubli. Mais il faut dire que au moment où ce musée-là existait, c'était le plus vaste musée avec une collection privée de vêtements au Québec. Donc c'était quand même un projet très ambitieux qui était difficile à entretenir. Il faut dire qu'au Québec, on n'est pas tendre avec nos musées de mode. Il y a celui de Montréal qui a également fermé il y a quelques années, qui a été incorporé au musée McCord. Donc, c'est assez difficile là, comme milieu.
C'est un peu dommage, effectivement. Et pour terminer, on se dirige vers votre article, celui sur la collection Couturier québécois, la plaque tournante de la mode québécoise, qui met de l'avant, effectivement, à quel point Québec a été une plaque tournante de la mode à la fin des années 80. Est-ce que vous pouvez nous remettre un petit peu en contexte? On en est où à Québec du côté de la haute couture à la fin des années 80?
La fin des années 80, c'est une période qui, je dirais, est décisive quand on parle de l'histoire de la mode, de l'industrie de la mode, puisque c'est un peu la première ouverture qui se fait dans cet édifice très parisien, très new-yorkais, où il y a des centres très établis, et le fait que des designers d'autres pays commencent à s'illustrer, notamment... ce qu'on va appeler les 6 d'Anvers, donc des designers belges, Martin Margiela aussi, ou les designers japonais comme Kenzo Yoji Yamamoto, Reikawa Kubo, qui arrivent à Paris et qui cassent tout littéralement. Et il y a un engouement, une volonté de sortir des carcans traditionnels. Donc Tokyo, à partir de ce moment-là, va devenir une grande ville de la mode. Et pour toutes les villes qui étaient laissées de côté un peu par ce système-là, c'est un peu une période d'espoir, une période là, de course à vouloir s'intégrer dans ce circuit-là de la mode. Et pour Québec, le moment Eureka, si on veut, c'est un événement qui s'appelait Rendez-vous 87, qui était organisé par Dick Walsh, il me semble, et qui était, à la base, c'était un match de hockey entre une équipe un peu coalisée de la LNH et l'équipe de hockey de l'URSS. Donc, on est vraiment dans la fin de la guerre froide. Et à l'occasion de cet événement-là, il y avait un défilé de mode qui était présenté.
Ah, ouais.
Et l'idée, c'était de présenter 4 créateurs de 4 pays. Donc, Geoffrey Beene, qui représentait les États-Unis, Enrico Coveri pour l'Italie, Jean-Paul Gaultier pour la France et Jean-Claude Poitras pour le Québec ou le Canada. Et ça a été donc un premier contact, si on veut, du milieu de la mode à Québec. Et ça va inspirer beaucoup Sylvie Corriveau, qui était la journaliste de mode au Soleil à cette époque et... avec qui j'ai fait les entrevues pour écrire cet article, qui était d'une générosité exceptionnelle. Et c'est vraiment elle qui va être le cerveau derrière ce qui va succéder à Rendez-vous 87, qui est une série de défilés qu'on appelle Collection Couturier Québécois, dont l'objectif était de mettre en valeur les designers du Québec, mais aussi de Québec, et donc de présenter sur un pied d'égalité ce qui se faisait à Québec avec les gens de Montréal qui arrivaient déjà avec un certain nom, comme Simon Chang, Jean-Claude Poitras également à cette époque-là. Donc, vraiment une vitrine sur la mode à Québec.
Et quelle réception vont connaître ces défilés? Comment vont-ils évoluer dans le temps?
Ça va être un très grand succès dès la première édition. En fait, rapidement, les représentations se font toutes à guichet fermé. On parle de foule de 1700 personnes chaque soir. Et les gens en parlent, c'est un grand retentissement parce que c'est vraiment un projet à grand déploiement, il faut le dire. Puis pour avoir parlé avec Sylvie Corriveau, qui m'a parlé du processus de création, c'était immense. Il y avait une très grande scène. Il y avait des décors interactifs qui se transformaient lors des défilés. À un moment donné, il y avait, je crois que c'était pour présenter l'événement de Jean Héroldi, ils avaient fait passer une moto sur la passerelle. Donc, il y avait beaucoup d'extravagance. Wow. Il y avait beaucoup de... une espèce de magie du show business, du spectacle qui était déployé pour ces événements-là. Puis vraiment dans une optique de faire quelque chose de très théâtral, puis d'aller au-delà de ce qui s'était fait jusqu'alors là, dans l'industrie de la mode. Et malheureusement, c'est ce qui faisait que la formule n'a pas pu être entretenue très longtemps. C'est des défilés qui se faisaient à perte, étant donné que ça coûtait extrêmement cher. Et même Sylvie Corriveau elle-même prenait de son temps bénévolement pour apprendre aux mannequins à comment marcher, comment se tenir et tout ça. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de travail. Elle faisait ça au dernier étage là, des bureaux du Soleil après la journée de travail. Et c'était le directeur du Soleil à l'époque qui, lui, acceptait de cautionner cet événement-là, de sponsoriser, de charger de la publicité parce que c'était important pour lui de mettre en valeur ce qui se faisait à Québec. Mais éventuellement, il y a eu un changement de direction et là, les coûts étaient moins... assumable. Et il faut dire aussi que dans les dernières années, les défilés étaient télévisés. Donc, ce qui va engendrer d'autres coûts, mais qui va aussi changer la manière dont c'était fait. Entre autres, auparavant, on utilisait des musiques, de la musique populaire là, qui était habituelle, mais la télédiffusion nécessitait d'acquérir des droits et comme ça aurait coûté trop cher, à partir de ce moment-là, les gens ont engagé des compositeurs pour faire une musique originale là, pour les défilés. Là. Donc, c'est vraiment une grosse production...
Quand même.
C'est défilé.
C'est malheureusement tout le temps qu'on avait, Alexandre Prince. Un grand merci. Et on invite ceux qui voudront en savoir plus sur l'histoire de la mode à Québec à se procurer le tout dernier numéro de la revue Québecentia que vous avez dirigé avec brio. Québecentia sur l'histoire de la mode à Québec. On peut se le procurer sur le site internet de la Société historique de Québec. Et sur ce, on se laisse avec un court extrait des Talons hauts de Robert Charlebois, classique des années 80. Et on se retrouve la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
C'était l'idole de son école et toutes les filles en étaient folles parce qu'il devenait tous les week-ends le chanteur d'un rock'n'roll band. Elle l'avait choisi comme escorte au bal des finissantes. Elle l'attendait